Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous écoutez 6ème Science. À ce stade-là, c'est plus un cold case, mais un surgelé picard. Plus d'un siècle après les faits, le mystère demeure. Tout au plus, a-t-on une petite idée de qui est derrière le coup ? Le responsable viendrait du cosmos. On ignore en revanche s'il court toujours à travers l'univers ou s'il a été réduit en poussière au moment de frapper. Pour ce qui est des victimes, même s'il tend à réparer certaines blessures, le crime a laissé des traces. À l'épicentre de la déflagration qui a frappé la taïga sibérienne un beau matin de 1908, la forêt a tout bonnement renoncé à repousser. Je parle, mais j'ai oublié de vous dire pourquoi. Les faits. L'explosion survenue à Tunguska a provoqué la destruction de 60 millions d'arbres et la plus grande onde de choc de mémoire d'homme. Même les Londoniens, pourtant lotis à 8000 km de là, ont senti la secousse. Comme dans un jeu d'enquête, on vous propose donc de rouvrir l'affaire, car des scientifiques n'ont pas renoncé à connaître le fin mot de l'histoire. Installée à Moscou, la journaliste Estelle Levresse les a non seulement rencontrés, elle s'est aussi rendue sur les lieux du crime. Dans le numéro 900 de Science et Avenir, elle passe au crible la dernière théorie en lice pour déterminer une fois pour toutes l'identité du coupable. Bonjour Estelle.
Bonjour Romain.
Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venue à travailler sur ce sujet, pour le moins quand même atypique ?
Alors oui, ben depuis que je vis en Russie, ça fait 3 ans maintenant, j'ai souvent entendu parler de cette histoire incroyable de la Tunguska. C'est un événement mythique ici pour les Russes. Quand on m'a proposé de réaliser un voyage dans le territoire Evenki, où s'est passée cette explosion, il faut imaginer que c'est vraiment au milieu de nulle part, en Sibérie centrale. C'est à 5000 km de Moscou. J'ai pas hésité, j'ai saisi l'opportunité d'aller là-bas et j'ai pas été déçu.
Alors toi, tu y es allé plus d'un siècle plus tard, mais est-ce qu'on peut remonter le temps tous les deux pour que tu me dises ce qui s'est passé le 30 juin 1908 à 7h14 du matin dans la normalement, on va dire, paisible, on peut dire même carrément morte, Sibérie?
Alors le 30 juin 1908, une terrible déflagration a balayé 2200 km² de forêt. Pour se rendre compte, c'est à peu près 20 fois la superficie de Paris. L'onde de choc a provoqué un immense incendie et détruit 60 millions d'arbres. Heureusement, ce territoire est pratiquement inhabité, donc on a dénombré une seule victime. Mais bon, les témoignages racontent que le bruit était effrayant et que les gens avaient la sensation que leur chemise était en feu. Pratiquement tout le monde s'y évanouit. Les gens qui vivaient là-bas à l'époque, c'est des chasseurs évêques et des éleveurs de rennes. Quand ils sont réveillés après être tombés dans les pommes, toutes leurs bêtes étaient mortes.
Tu utilises un adjectif, c'est évêque. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit ?
Alors les évêques, c'est un peuple de Sibérie. Un des peuples autochtones de Russie qui vit principalement donc de l'élevage de rennes, qui chasse et qui pêche.
Ok. On s'est attardé sur l'impact un petit peu de cette explosion. Faut dire qu'elle est monumentale, avec une puissance 1000 fois plus élevée que celle de la bombe H d'Hiroshima. Tu écris d'ailleurs que le ciel est resté lumineux durant plusieurs jours, et surtout la nuit. Ah, c'est incompréhensible. Comment c'est possible ?
Alors sur le fait que le ciel est resté lumineux pendant plusieurs jours d'affilée, ça a été observé, et pas seulement en Russie, en Angleterre, même en Allemagne, on a des témoins qui ont rapporté que le ciel était si clair qu'on pouvait lire un livre en pleine nuit dans la rue. Mais en fait, c'est un phénomène qui n'est pas vraiment expliqué. Par rapport à l'explosion qui était monumentale, il y a une anecdote, on dit qu'à Irkoutsk, donc qui est une ville à 1000 km au sud de Tunguska, près du lac Baïkal, le sismographe s'est tellement emballé que le responsable de la station a cru que la machine déraillait et il l'a éteint.
Oui, donc il est passé à côté de l'enregistrement du siècle.
Voilà.
Et en parlant justement d'enregistrement, quel retentissement médiatique et ou scientifique a eu ce cataclysme d'ordre mondial ?
Alors au départ, on est en 1908, le retentissement est plutôt limité parce que bon, c'est au fin fond de la Sibérie. Il y a quelques articles de presse locales, quelques habitants qui écrivent des petites notes en expliquant ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti. Mais il faut attendre près de 20 ans, 19 ans exactement, pour qu'une première expédition puisse être menée sur place. Mais grâce notamment au minéralogiste russe Leonid Kulik, qui va consacrer une grande partie de sa vie à cet événement, Le retentissement devient de plus en plus important et même international. Et au niveau scientifique, on se rend compte de l'ampleur de cette catastrophe et que c'est la plus grande onde de choc de mémoire d'humain.
On va mettre Léonie de côté pour l'instant, on en reparlera plus tard, pas d'inquiétude. Cet événement, il n'a peut-être pas eu un impact médiatique très fort au début. En revanche, s'il a bien marqué quelqu'un, c'est le territoire, mais aussi la population locale.
Oui, tout à fait. D'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, la population locale était principalement composée d'évêques. Et ce peuple a des croyances animistes. Donc, sur place, j'ai rencontré une descendante de témoins directs, qui était la petite-fille d'un chasseur évêque, qui dit qu'à l'époque, les gens ont décrit ce qu'ils ont vu comme une créature volante avec une tête et une queue de feu. Donc, dans leur croyance, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un esprit malin venu du monde d'en bas, qui, pour eux, est le monde des morts et le monde du mal. Et en plus, les chamans leur disaient... Surtout, n'allez pas dans la zone où s'est passée cette explosion parce que c'est un péché, vous allez tomber malade, vous allez mourir. Enfin voilà, c'était terrible. Et ensuite, suite à ça, beaucoup de légendes ont été créées autour de Tunguska. Et notamment, il y a une légende d'Evenk qui raconte que c'est le dieu du tonnerre qui était en colère contre les hommes et qui est descendu sur Terre en tirant des flèches enflammées pour détruire la taïga.
On peut dire que d'une certaine façon, tu as péché puisque plus d'un siècle après les faits, tu as pu te rendre sur place au niveau de l'épicentre. À quoi ressemble le site de l'explosion et qu'est-ce que tu as ressenti ?
Alors oui, effectivement, je suis allée sur place. Plus de 100 ans après, en fait, la forêt a repoussé quasiment partout. Elle est d'ailleurs absolument magnifique. En fait, en 1995, une réserve naturelle a été créée sur le site de l'explosion pour préserver l'endroit. C'est une réserve qui est fermée au public. On peut y accéder, mais il faut demander une autorisation. On peut y aller seulement avec un guide. Donc c'est un endroit qui est très très préservé. Il faut imaginer, donc ça fait 100 ans qu'il n'y a aucune activité humaine, pas de pollution, comme ça peut être le cas en Sibérie, pas d'exploitation pétrolière, gazière, minière. On a la sensation d'être isolé du monde et dans un endroit privilégié en fait. Donc on a pu marcher à travers la taïga, les odeurs étaient incroyables, foisonnantes, hyper puissantes. Et quelque chose qui m'a vraiment étonnée, c'est qu'il reste encore des arbres de l'époque couchés. Donc on voit les racines. Franchement, au début, je disais, c'est pas possible, c'est pas des arbres qu'on s'entend.
Oui, ils auraient dû se dégrader.
Voilà. Et en fait, notre guide Evgenia m'a expliqué que l'espèce d'arbre, c'est du mélèze de Sibérie et que c'est particulièrement résistant, c'est très dense et ça se décompose très très lentement.
T'as vu de près la forêt, mais tu t'es aussi rendu au cœur du site, puisque tu as vu l'épicentre, et l'épicentre reste au cœur du mystère de Tunguska, puisque là où s'étendait auparavant une belle forêt, bah, les lieux ressemblent aujourd'hui à un marécage, alors que c'est vrai qu'au moment de lire le dossier, moi je m'attendais plutôt à ce qu'il y ait un cratère qui aurait pu être depuis rempli d'eau ou de remblai, mais comment on explique cette métamorphose qui est finalement pour le meilleur ?
Oui, c'est très étonnant quand on arrive, c'est un site qui est accessible uniquement en hélicoptère. Donc quand on survole le site, on arrive, en fait, on a de la forêt vraiment à perte de vue, c'est vraiment incroyable. Et tout d'un coup, un grand espace où il n'y a plus d'arbres, c'est des petits cratères, comme des petits marécages. Et donc en fait, ça c'est dû à la nature spécifique du sol de Sibérie, qui est du pergélisol. Donc le pergélisol, il est composé normalement de deux couches, une couche qu'on appelle la couche active, qui fond en été, et qui gèle en hiver, et en dessous, il y a la couche souterraine qui, normalement, ne fond jamais. Et en fait, la déflagration de 1908 a été si violente et si forte qu'elle a fait fondre cette couche souterraine, et ça a créé ce qu'on appelle des dépressions thermokarstiques, et en fait, la forêt ne peut pas repousser. Et avec le temps, l'humidité qui s'est accumulée dans ces espèces de cratères, la mousse s'est développée, et ça s'est transformé en tourbières. Ça s'appelle les tourbières à sphaigne. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces tourbières ont une grande valeur écologique. Non seulement la canneberge, qui est les baies locales, y poussent très bien, mais c'est aussi devenu un lieu de repos pour la faune. Et alors, les guides nous ont montré des photos incroyables. On voit des ours bruns, des élans, des renards, des loups ou des rennes qui vivent dans ces tourbières.
Alors, c'est le moment où on raccroche les wagons avec le fameux Léonide Koulik. Le site porte totalement son empreinte. Tu as précisé tout à l'heure qu'il était minéralogiste. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce personnage marquant de Tunguska ?
Effectivement, son nom est vraiment associé au mystère de Tunguska. En fait, Léonide Koulik, c'est un scientifique qui, à l'époque, travaille au musée de minéralogie de Saint-Pétersbourg. Et il a créé là-bas un département dédié aux météorites. En fait, il prend connaissance assez tardivement de ce qui s'est passé en Sibérie, plusieurs années après l'événement. Mais dès qu'il est au courant, l'histoire le passionne et il veut se rendre sur place. Il fait des recherches, il commence des investigations, il recueille des témoignages et il est convaincu assez vite que la déflagration est la conséquence d'un impact de météorite. Donc il demande à l'Académie des sciences soviétiques de financer une expédition là-bas. Bon, compte tenu du contexte historique, des difficultés, finalement, elle n'aura lieu qu'en 1927, c'est-à-dire 19 ans après l'événement. Mais bon, il faut bien imaginer le périple que c'est depuis Saint-Pétersbourg à l'époque. Déjà, il met des jours et des jours de voyage pour se rendre à Vanavara, qui est le village le plus proche du lieu de la catastrophe. Et puis au départ, sur place, personne ne veut l'accompagner, puisque les chasseurs du peuple Evenk sont stressés par le fait d'aller sur place.
Bon, on peut dire qu'il a galéré quand même, hein, ce pauvre Léonide, puisqu'il s'est rendu sur place plusieurs fois à la recherche de la météorite ou de débris, puisque c'était sa grande théorie. Finalement, il n'a rien trouvé et ça lui a même un petit peu coûté la vie, finalement, cette passion pour Tunguska.
En fait, oui, il va faire des recherches pendant vraiment des années. Il a mené là-bas plusieurs expéditions et à chaque fois, ça dure plusieurs mois. En fait, non loin de l'épicentre, il a fait construire un camp de base, à partir d'ailleurs des arbres qu'il trouve dans la forêt, hein, puisque, enfin, il n'y avait plus d'arbres, en fait, il n'y avait que les troncs au sol. Donc, il utilise ces troncs, il construit une cabane pour lui, une cabane pour les ouvriers, un garde-manger. Et ce qui est très étonnant, c'est que tout est toujours debout sur place. On est entré dans la cabane de Kulik, par exemple. C'est très marrant, voilà. Mais donc, on a eu une petite idée des conditions de vie assez sommaires dans lesquelles ils étaient à l'époque. Et à un moment même, donc il est tellement sûr que c'est un météorite, lui, l'épicentre, en fait, il comprend pas tout de suite d'où ça vient, pourquoi c'est comme ça, pourquoi il y a plus de forêt. Et donc, il pense que ces cratères, c'est des impacts de la météorite. Donc, c'est rempli d'eau. Il se dit, je vais en assécher un. Et comme ça, au fond, je vais trouver des traces, des débris. Il fait construire une tranchée. Alors, on dit, enfin, il y a des photos qui fait 4 mètres de profondeur, 38 mètres de longueur. C'est très difficile. C'est vraiment un travail vraiment dur pour les hommes qui l'ont embauché pour faire ça. Et en fait, le résultat est négatif. Donc là, Kulik est complètement déprimé, mais il reste convaincu de sa théorie. Au total, il a mené 4 expéditions. Il voulait en mener une cinquième, mais en 1941, à cause de la Seconde Guerre mondiale, ils ne peuvent pas mener cette cinquième expédition. Et lui, qui est très patriote, fait tout pour partir au front, alors qu'il a déjà 58 ans et qu'il pourrait ne pas y aller, quoi. Il y va, il est fait prisonnier très très vite et il décède du typhus dès 1942.
Bon, pardon Kulik, hein. Malgré sa trajectoire, on va dire, assez dramatique, il reste, on va dire, un personnage central pour Tunguska et pour la mythologie qui entoure un petit peu le site quand même.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu un timbre à son effigie dans les années 50. Il y a une rue Kulik à Vanavara, donc le village qui est près de la réserve. Enfin, voilà. Et puis, c'est un personnage qui est connu en Russie, quoi.
Ce qui m'étonne au-delà de ça et au-delà de la postérité du personnage, c'est que la postérité du mystère est encore là aujourd'hui. On ne sait toujours pas précisément ce qui a causé cette explosion titanesque. Et dans l'intro, je disais que des scientifiques se penchaient encore sur ce mystère. Quelles approches ou quelle approche privilégie-t-il ?
Alors effectivement, on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé le 30 juin 1908 et il est probable qu'on ne le sache jamais en fait, puisqu'il s'est passé tellement de temps que trouver des preuves directes, ça paraît très difficile aujourd'hui.
Non mais dis pas ça Estelle, les gens vont arrêter le podcast de suite là.
Mais quand même, les spécialistes aujourd'hui sont d'accord sur l'explication générale, c'est-à-dire de l'origine cosmique du phénomène. Et d'ailleurs, en 2016, les Nations Unies ont déclaré le 30 juin, donc la date de l'événement, Journée internationale des astéroïdes, en l'honneur de Tunguska. Donc voilà, l'idée c'est quand même que c'est un astéroïde. Donc récemment, quand même, il y a des chercheurs russes qui continuent à se pencher sur cet événement. Ils ont une théorie intéressante, des chercheurs russes de Krasnoyarsk en Sibérie. Ils ont présenté leur théorie en disant « on va vous expliquer pourquoi il n'y a pas de débris » et pas de cratère sur la zone de l'explosion. Leurs travaux ont été publiés en 2020 dans une revue d'astronomie. Eux pensent que c'est un astéroïde qui aurait frôlé la Terre sans provoquer d'impact, et que les arbres couchés, la forêt détruite, auraient été provoqués simplement par l'onde de choc.
Comme une aiguille qui passerait dans l'étoffe d'un vêtement, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc ils ont fait des calculs, ils imaginent un astéroïde en fer, parce qu'ils considèrent qu'il faut que ça soit une matière suffisamment résistante pour qu'elle ait pu traverser l'atmosphère et ressortir ensuite, et de très grande taille, donc eux ils pensent que c'est 200 mètres de diamètre pour avoir eu suffisamment de résistance pour créer cette onde de choc terrible.
Cette théorie, elle est assez innovante, est-ce qu'elle convainc le reste de la communauté scientifique ?
Alors, j'ai interrogé deux grands spécialistes des impacts planétaires pour leur demander leur avis sur la théorie des Russes. J'ai interrogé Ludovic Ferrière, qui est un expert français, et Marc Bosselot, qui est un expert américain. Les deux disent que les calculs de Karpov, donc c'est le scientifique russe qui était le principal chercheur de Krasnoyarsk, les deux disent que les calculs sont sérieux et rigoureux, que le modèle tient la route, mais ils émettent des doutes, disent que le lien avec Tunguska ne leur semble pas évident. En fait, en théorie, c'est possible. C'est déjà arrivé de voir un objet cosmique qui ne fait que traverser l'atmosphère et qui ressort. Mais ils disent que ce qui manque dans leur modèle, c'est que ce qu'on observe au sol, l'onde de choc, elle a une forme de papillon. Karpov n'explique pas pourquoi l'onde de choc a cette forme. Mmh. Ça manque pour que la théorie soit totalement convaincante.
Parce qu'en fait, c'est ça, il faudrait qu'elle ait une forme beaucoup plus fuselée, finalement. C'est comme tout à l'heure, j'utilisais la métaphore de l'aiguille qui fait que passer, mais du coup, cette onde de choc devrait avoir un peu une forme d'aiguille, quoi.
Boslow, qui est l'expert américain, m'expliquait qu'en fait, il n'a pas pris l'exemple d'une aiguille, mais il m'expliquait ça comme un crayon pointu au bout et le corps cylindrique. Et que, en fait, si ça traverse l'atmosphère au-dessus de la Terre, l'onde de choc devrait avoir la forme d'un sillage de bateau. Et c'est pas le cas, puisqu'elle a une forme de papillon.
Du coup, si ce n'est pas donc une météorite ferreuse qui traverse l'atmosphère sans se désagréger et qui ressort un peu plus loin pour rejoindre le cosmos, on a l'hypothèse toujours de l'astéroïde, mais là plutôt donc d'une météorite, hein, c'est un astéroïde qui frappe le sol, là plutôt à la verticale. Comment on explique qu'aucun débris n'a été retrouvé ?
Alors justement, l'hypothèse de la météorite, c'est pas la plus communément admise. Aujourd'hui, ce qui est le plus communément admis chez les scientifiques, qui explique l'absence de débris et d'impact, ça serait soit une comète, donc faite de glace et de poussière, qui se serait désagrégée en vol, soit un astéroïde, comme Karpov, mais qui serait arrivé de façon verticale, plutôt de type pierreux, et qui aurait explosé avant de toucher la Terre. Et dans ces cas-là, les poussières auraient été transportées
loin,
ce qui expliquerait qu'on n'ait pas trouvé de traces de débris.
Donc pas de météorite, pas de frappe directe, en quelque sorte.
Voilà, c'est ça.
Ce que je trouve intéressant dans ton dossier également, c'est un petit peu le mot de conclusion, qui sera également le nôtre, c'est que finalement, les chercheurs russes que tu rencontres, ils n'ont pas l'air si pressés que ça d'avoir le fin mot de l'histoire.
Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était assez étonnant et en même temps assez touchant. Donc, Sergueï Karpov, que j'ai rencontré à Krasnoyarsk, qui est un scientifique d'un certain âge, il a déjà plus de 60 ans. C'est un physicien qui est au départ spécialisé dans l'optique, mais qui est passionné d'astronomie. Par exemple, je lui ai demandé s'il se souvenait la première fois qu'il avait entendu parler de Tunguska. Il me dit oui, tout à fait, j'ai découvert cette histoire quand j'étais enfant dans un livre. Il se souvenait même du titre du livre, ça s'appelle « Essai sur l'univers », c'est un astronome soviétique renommé. À la fin de notre entretien, il m'a dit « Voilà, maintenant j'ai cette interrogation de me dire cette histoire qui est totalement fascinante, quand les enfants ouvrent des livres et la découvrent, en fait, ils ont envie de découvrir le mystère, de comprendre ce qui s'est passé. Cette histoire les fait s'intéresser à l'astronomie, puis plus généralement à la physique, aux sciences. Et c'est très important que les enfants puissent avoir ce genre de réaction. Il disait, si je résous totalement le mystère de Tunguska, est-ce que ça sera vraiment une bonne chose? Parce que du coup, il y aura plus de livres sur cette histoire fantastique.
Oui, il y aura plus d'inspiration, il y aura plus d'élan pour les sciences chez les jeunes Russes.
Voilà.
En attendant, chez nous, il y a eu un certain élan, une certaine curiosité hein, pour Tunguska. J'espère que c'est le cas également de votre côté. La question qui demeure, c'est celle de savoir si vous êtes plutôt partisan de la théorie de l'astéroïde de fer ou de la météorite fragmentée. Faites-nous part de vos réflexions par mail à l'adresse audio@20minutes.fr. Sans grande révélation scientifique d'ici là, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode où, comme l'onde de choc de 1908, on enverra de la science dans tous les sens.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.